Quelques moments plus tard, quand le reste de la chasse arriva, on découvrit le roi de France gisant au pied de son cheval. Lombard aboyait toujours le grand cerf pèlerin, dont on remarqua que les andouillets étaient chargés de deux branches mortes, accrochées dans quelques sous-bois, et qui luisaient au soleil sous leur vernis de givre. Mais on ne perdit point de temps à se soucier du cerf. Tandis que les piqueurs arrêtaient la meute, il prit la fuite, un peu reposé, suivi seulement de quelques chiens acharnés qui erraient avec lui jusqu'à la nuit où le conduirait se noyer dans un étang. Hugues de Bouville, penché sur Philippe le Bel, s'écria « Le roi vit !» Avec deux balivots taillés sur place à coups d'épée, et entre lesquels on noie ceinture et manteau, on fabriqua une civière de fortune, où l'on étendit le roi. Celui-ci ne remua un peu que pour vomir et se vider de toutes parts, comme un canard qu'on étouffe. Il avait les yeux vitreux et mi-clos. On le porta ainsi jusqu'à Clermont, où, dans la nuit, il recouvra partiellement l'usage de la parole. Les médecins aussitôt mandés l'avaient saigné. À Bouville, qui le veillait, son premier mot péniblement articulé fut « La croix ! La croix !» Et Bouville, pensant que le roi voulait prier, alla lui chercher un crucifix. Puis Philippe le Bel dit « J'ai soif !» À l'aube, il demanda en bégayant d'être conduit à Fontainebleau où il était né. Le pape Clément V, lui aussi, se sentant mourir, avait voulu revenir vers le lieu de sa naissance. On décida de faire voyager le roi par eau pour qu'il fût moins secoué. On l'installa dans une grande barque plate qui descendit l'Oise. Les familiers, les serviteurs et les archers d'escorte suivaient dans d'autres barques, ou bien à cheval le long des berges. La nouvelle devançait l'étrange cortège, et les riverains accouraient pour voir passer la grande statue abattue. Les paysans ôtaient leurs coiffures, comme lorsque la procession des rogations traversait leurs champs. À chaque village, des archers allaient quérir des bassines de braise qu'on déposait dans la barque pour réchauffer l'air autour du roi. Le ciel était uniformément gris, lourd de nuées neigeuses. Le sire de Vauréal vint de son manoir qui commandait une boucle de l'Oise pour saluer le roi. Il lui trouva un teint de mort répandu sur le visage. Le roi ne lui répondit que des paupières. Où était l'athlète qui naguère faisait ployer deux hommes d'armes rien qu'en leur pesant sur les épaules? Le jour finissait tôt, on alluma de grandes torches à l'avant des barques, dont la lumière rouge et dansante se projetait sur les berges, et l'on eût dit du cortège une grotte de flammes qui traversait la nuit. On arriva ainsi au confluent de la Seine, et de là jusqu'à Poissy. Le roi fut porté au château. Il demeura là une dizaine de jours, au bout desquels il parut un peu rétabli. La parole lui était revenue. Il pouvait se tenir debout avec des gestes encore gourds. Il insista pour continuer vers Fontainebleau, et faisant un grand effort de volonté, il exigea qu'on le mît à cheval. Il alla de la sorte, prudemment, jusqu'à Essonne, mais là il dut abandonner, le corps n'obéissait plus au vouloir. Il acheva le trajet dans une litière. La neige tombait à nouveau, le pas des chevaux s'y étouffait. À Fontainebleau, la cour était déjà rassemblée. Des feux flambaient dans toutes les cheminées du château. Le roi, quand il entra, murmura « Le soleil, Bouville, le soleil !»